aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et c'est l'heure de retrouver les évadés du sport sur Radio Évasion. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors ton invité ce midi, c'est Tuc Duhal qui s'apprête avec ses deux compères à partir faire un tour d'Europe à vélo pour un grand voyage, pour découvrir des projets et des initiatives européennes dans le domaine des low-tech. Alors low-tech, si ça vous dit rien, on vous en parlera tout à l'heure. Mais avant de retrouver Tuc Duhal, notre invité du jour, on fait un focus sur l'actualité sportive du week-end avec Hugo, qui fait le point sur les résultats des clubs bretons en foot, en hand et en rugby. Les évadés du sport sur Radio Évasion. Hugo Lebeuz.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion. Vous écoutez Les évadés du sport, votre flash autour de l'actu sportive bretonne. Au sommaire de ce nouveau flash, le Brest Bretagne Handball au bord de l'élimination en Ligue des Champions. Un derby qui se profile entre Brest et Lorient en Ligue 1 de football et le RC Vannes, toujours en quête de régularité en Pro D2 de rugby. On démarre votre flash en évoquant une situation qui se complexifie sur la scène européenne pour les joueuses du Brest-Bretagne Handball. Les filles de Pablo Morel se sont en effet compliqué la tâche en s'inclinant 29-18 face à Rostov dans un match à sens unique. Les partenaires de Cléopâtre Darleux terminent donc à la 4e place de leur poule et devront donc passer un tour de barrage, sans doute face au redoutable CSKA Moscou, pour entrevoir les quarts de finale de la compétition. En championnat, Brest se classe à une bonne 2e place, 3 petits points derrière le leader incontesté, Metz. Place au football. Le Stade Brestois et le FC Lorient s'affrontent dimanche 27 février à 15h au Stade Francis Leblay. Ce match sera l'occasion pour les Merlus de sortir de la zone rouge dans laquelle ils ont replongé après une défaite à la fois cruelle et logique sur le score d'un but à zéro face à Montpellier. Les Tizèf occupent une place plus confortable, la 12e, et voudront quant à eux affirmer leur statut de favori devant leur public pour enchaîner un 3e match de rang sans défaite et bonifier le succès acquis au stade du Moustoir au match aller sur le score de 2-1. Parlons désormais rugby et Pro D2. Le RC Vannes a retrouvé le chemin du succès à l'Arabine contre Montauban sur le score de 22-18. Après deux rencontres sans succès en dehors de leur base et une fin de match à suspense face à Montauban, les hommes de Jean-Noël Spitzer remontent à la 10e place, 8 points derrière une 6e place et des rêves de montée qui se sont envolés, la faute à une trop grande irrégularité et à un mauvais début de saison. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash. Vous retrouvez maintenant Pierre-Yves et Fred et à bientôt pour un nouveau numéro des Évadés du Sport.
Merci Hugo, et effectivement, tu le rappelais Hugo dans ton flash, c'est week-end de derby à Francis Leblay, dimanche à 15h, Brest recevra Lorient, j'ai hâte, voilà. Mais c'est pas tout ça, notre invité est avec nous en studio, et bien justement Fred, qui est ton invité?
Alors aujourd'hui, mon cher Pierre-Yves, nous recevons Tuc Duhal Lenir. Alors, avec ses trois acolytes, il a décidé de partir faire un tour d'Europe à bicyclette, à la rencontre des gens et de leur culture, mais aussi et surtout pour faire un tour d'Europe des initiatives de transition et des low-tech. Alors le départ est prévu dimanche, donc ça approche là. Alors Tuc Duhal, est-ce que tu peux déjà nous présenter ton projet dans les grandes lignes? Il y a trois axes, je crois.
C'est ça. Alors donc déjà, on va partir en vélo et donc jusqu'à à peu près jusqu'à Athènes. Donc on va partir dans un premier temps pour découvrir tout ce qui va être des low-tech et en recenser un peu partout en Europe où on va pouvoir en trouver.
Peut-être il faut déjà repréciser pour les auditeurs.
Mais oui.
Low-tech,
qu'est-ce
que c'est?
Alors, des low-tech, c'est des technologies ou des pratiques ou voilà, un ensemble de choses qui répondent à trois axes principaux. Donc, le premier axe, c'est des technologies qui doivent être utiles, donc qui doivent répondre à un besoin spécifique et qui doivent répondre à une envie d'une population ou de personnes. Dans un second temps, elles doivent être accessibles, donc, c'est-à-dire elles doivent être à bas prix pour pouvoir être accessibles au plus grand nombre et à un plus grand nombre de personnes. Il faut aussi qu'elles puissent être fabriquées localement sur le territoire, et donc par les personnes qui veulent les utiliser également. Et enfin, c'est des technologies qui doivent être durables, donc il faut les construire ou les fabriquer tout en ayant en tête qu'elles soient robustes, qu'elles soient réparables, recyclables et qu'on puisse éventuellement les réutiliser pour faire autre chose derrière. Donc voilà ce que c'est à peu près Dellotech. Ça regroupe en fait plein de pratiques et de techno.
Ouais, parce que vous allez jusqu'à Athènes, vous avez déjà un petit peu plus ou moins identifié des projets que vous voulez absolument rencontrer.
Alors pour l'instant, on en a. Alors c'est plus facile d'en recenser en France, en tout cas. Ouais. Parce qu'après, le but c'est aussi d'aller trouver des choses qui ne sont pas forcément référencées en France. Donc pour l'instant, on a trouvé des choses un petit peu en Italie. Et après, on verra aussi sur notre chemin. On en trouvera aussi.
Une fois que vous passez la Slovénie, c'est hop, oh, ce sera au petit bonheur la chance quoi.
Un petit peu, ouais, c'est ça.
Et si on revient alors sur la genèse du projet, vous êtes trois, comme on disait. Est-ce que tu peux présenter le groupe? Déjà, on peut dire vous avez la vingtaine, toi tu as 22 ans, je crois, c'est ça.
Ça ouais.
Donc vous êtes tout jeune et vous êtes en école d'ingé ou en fac, quoi.
C'est ça. Du coup, on est deux en école d'ingénieur, donc on s'est rencontrés en prépa, en classe préparatoire à Brest. Et le troisième, du coup, il est en STAPS à Brest. Donc lui est plus orienté côté sportif du projet et performance pour voir un petit peu aussi comment on va évoluer pendant ces 5 mois.
C'est ça, donc c'est Wessan et Mathis, ces deux frères.
Ça, ouais.
Alors vous êtes tous originaires du Finistère.
C'est ça, moi je viens de Plébenec et eux ils viennent du nord de Saint-Paul-de-Léon.
Ouais, donc du Léon quoi, en
c'est
gros.
Ça.
Et après moi je me posais la question de savoir si le vélo lui-même n'était pas le low-tech par excellence et est-ce que c'est un symbole à travers le départ à vélo.
Ah bah, c'est sûr que le vélo est un mode de transport low-tech. Parce que c'est juste du muscle et on fait tourner les pédales et c'est tout quoi. Donc c'est vrai que et puis on part et on a à peu près tout avec nous pour pouvoir réparer si on a des casses. Donc c'est vrai qu'on a une certaine autonomie aussi avec le vélo qu'on n'a pas forcément avec d'autres moyens de transport.
Donc c'est ça la dimension sport finalement, parce qu'on est quand même dans les évadés du sport, donc voilà, on rappelle que le vélo est du sport aussi, donc ça va être dur finalement. Parce que combien de kilomètres sont prévus à vélo?
Il y en aura à peu près 8000, donc ça fait un petit bout de chemin.
Ouais, et tant qu'on est sur la partie un peu intendance, là, donc tu disais que vous partez là bientôt essayer une nuit avec votre matériel, voir si ça tient. Les vélos, j'imagine qu'ils sont adaptés, il y a une grosse intendance et logistique à mettre en place.
C'est ça, les vélos, ils sont prêts, on a tout préparé. Et bon, nous, on a décidé de partir sur des vélos, pas des vélos de voyage, mais plutôt des vélos mi-sport, mi-voyage. Donc voilà, oui, puis on a tout prévu pour en cas de casse ou en cas de...
Tant qu'on est dans le matos, vous parlez de quoi comme vélo? C'est du bikepacking, quoi
C'est pas du bikepacking, on a pris des vélos de gravel, donc des vélos de route, mais avec des gros pneus, en gros.
C'est ça.
Mais on aura quand même des sacoches, on va dire, classiques, avec des porte-bagages. Voilà. Parce que c'était quand même plus simple que du bikepacking. C'est quand même plus restreint en termes de matériel à emporter.
Est-ce que vous avez aussi anticipé, du coup, les arrêts au fur et à mesure, déjà un petit peu, quoi? Comment ça se passe pour le bivouac, tout simplement, quoi?
Alors, pour le bivouac, vu qu'on a les tentes et tout le matériel, on peut se poser n'importe où. Donc, on n'a pas forcément besoin de prévoir à l'avance. Après, on compte quand même... contacter des gens sur des sites comme Couchsurfing, par exemple, pour pouvoir aller rencontrer les gens aussi, parce que c'est quand même un début du projet. Donc voilà, on se laisse la possibilité de voir comment ça va se dérouler.
Oui, vas-y, je t'en prie, Fred.
Eh bien oui, alors, après, sur l'essence même du projet, si on revient un peu à l'objectif, je crois que c'est ce que j'ai lu, c'est que votre idée a germé pendant le confinement, avec peut-être cette privation de relation ou ce sentiment aussi qu'il y avait un monde un peu à repenser. Et donc, vous, en tant qu'ingénieur, quel a été votre constat ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment dit ben, « là, c'est bon, on y va, on est parti, quoi. »
Bah, c'est vrai que le confinement, ça a été pas mal de changements quand même.
Pour des étudiants, parce que vous étiez en année d'études, on vous a dit « ça va être super les études et tout, puis le confinement, quoi. »
C'est ça. En gros, on a eu 6 mois d'études et après confinement sur confinement. Et c'est que quand on s'est retrouvé, moi du coup, tout seul à Grenoble, à pas pouvoir sortir, à part pour aller en cours, au départ, j'avais prévu d'aller au Canada pour faire ma dernière année d'études. Et du coup, à la place, on s'est dit, on peut quand même faire autre chose et pouvoir un peu être libre et voyager autrement. Et voilà. Et voyager autrement aussi, surtout. Ouais.
Comme partenaire, vous avez aussi la Low-Tech. Alors, c'est comment ? C'est le Low-Tech, c'est un Fab Lab de Concarneau ?
C'est le Low-Tech Lab. Alors, c'est pas un Fab Lab, c'est plus une association. C'est une association. Et du coup, qui est basée à Concarneau, effectivement. Et c'est la grosse association de Low-Tech en France. Et donc, eux, ils s'occupent. Par exemple, le fondateur, c'est Corentin de Châtel-Perron, qui est parti sur son bateau pendant plus de 4 mois pour. Recenser des low-tech partout dans le monde, donc voilà, et donc il s'occupe de recenser plein d'initiatives un peu partout en France et dans le monde, et donc nous on contribue justement à ce projet de recensement de low-tech
Que moi je me posais la question, est-ce que vous faites partie d'un réseau, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres initiatives en 2019, il y a quelqu'un qui est parti comme ça aussi faire le tour d'Europe à vélo, mais j'imagine qu'il y a plein d'initiatives, et est-ce qu'il y a un organisme ou une fédération qui regroupe ces recherches?
Alors du coup avec le Low-Tech Lab, il y a les Low-Tech Explorers, donc qui sont plein d'initiatives de ce type là. Il y a eu par exemple il y a un an les Matlow-Tech, donc eux sont partis en bateau. C'était un groupe d'étudiants aussi, recensés des low-tech, qui sont partis aux Açores. Et... Donc voilà, ça faisait un petit tour aussi. Et après, sinon, non, il n'y a pas forcément d'organisme qui recense toutes ces initiatives. Mais c'est vrai qu'on en connaît pas mal, parce qu'il y en a plusieurs aussi dans le coin de Grenoble qui partent en vélo comme ça aussi. Pas tous dans le même objectif, mais voilà.
Je me demandais par rapport aussi à... Il y a un objectif aussi un petit peu d'inventaire, et vous souhaitez aussi peut-être un peu communiquer un petit peu sur les gens que vous allez rencontrer forcément tout au long de votre périple, quoi. Vous avez déjà un peu prévu comment vous allez communiquer sur les réseaux sociaux et tout ça?
Alors effectivement, on va communiquer sur nos réseaux sociaux, donc on a Facebook et Instagram, et on va aussi, du coup c'est un peu le troisième volet du projet, on va communiquer avec des classes de primaire, donc avec qui on va envoyer un petit peu tous les détails de notre parcours au fur et à mesure.
Quelle classe de quelle...
Donc c'est les classes de CE2 de l'école publique de Plabennec. Donc voilà, donc qu'on va rencontrer demain. Donc on va aller voir les deux classes pendant à peu près une heure pour expliquer notre projet, montrer notre matériel, donc voilà, et discuter avec eux s'ils ont des questions aussi pour y répondre. Et après, du coup, toutes les semaines environ, on enverra des informations sur le nombre de kilomètres qu'on a parcourus, sur les personnes qu'on a rencontrées, sur les langues qu'on a pu découvrir et qu'on a pu un petit peu découvrir. Et voilà, et après aussi, de temps en temps, on enverra des informations sur les low-tech qu'on aura pu recenser. Donc voilà, ce sera pour eux une bonne manière de découvrir ça en même temps que de découvrir l'Europe.
Parce que en parlant de low-tech, toi, tu as peut-être une spécification, un domaine de low-tech, parce qu'il y en a plein des domaines, quoi, mais il y en a peut-être un qui t'intéresse plus particulièrement.
Effectivement, les low-tech, il y en a dans tous les domaines, que ce soit l'énergie, l'alimentation, le transport ou l'habitat. Nous, on s'est dit qu'on allait plutôt se concentrer sur les domaines de l'énergie et de l'alimentation, donc alimentation plutôt agriculture. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'initiatives.
Justement, en agriculture, ça consiste en quoi, les low-tech?
Ça va plutôt être des pratiques là, dans le cadre de l'agriculture. Donc, par exemple, avec la permaculture, qui est une pratique low-tech.
D'accord, donc la permaculture, on peut la considérer
c'est
comme
ça, exactement, oui. Ça, parce que la permaculture permet d'utiliser moins d'engrais, moins de tracteurs. Donc voilà, donc c'est une pratique low-tech, effectivement. C'est ça.
Et l'habitat aussi?
L'habitat, on trouve beaucoup de low-tech dans l'habitat, que ce soit pour cuisiner, pour mettre par exemple des protections sur un chauffe-eau quand il est assez ancien, pour éviter les déperditions d'énergie. Donc on trouve des choses très simples à mettre en place et qui marche relativement bien.
Et du coup, ça veut dire aussi que c'est finalement, entre guillemets, si on veut avoir un raisonnement un peu commercial, mais il y a aussi des débouchés ou des métiers à créer dans l'univers des low-tech, et ça peut être aussi un phare un petit peu pour réinventer les choses, quoi.
Ah, effectivement, les low-tech, beaucoup pensent que c'est des choses qui sont un petit peu vouées à être une niche, mais... c'est aussi possible de commercialiser des low-tech. Et c'est pour ça que tout le travail qu'on fait est sous licence libre, mais est quand même possible. Il y a quand même possibilité d'utiliser ça pour des usages commerciaux. Et il y a déjà des entreprises en France qui se sont développées en en ayant pour activité économique la construction de low-tech. Parce que c'est vrai qu'à la base, une low-tech, dans l'idée, c'était que chacun puisse les construire par soi-même. Mais on n'a pas le temps de construire des low-tech pour faire tout ce dont on a besoin dans la vie. Donc c'est aussi, ça peut être aussi, c'est aussi une très bonne idée de pouvoir les acheter et donc de pouvoir en faire une activité économique.
À guider peut-être derrière la tête aussi, derrière ce voyage, pour vous aussi, peut-être préparer aussi les quelques années qui vont suivre après vos études. Parce que là tu vas reprendre ou t'es en pause là?
Là, du coup, pendant un an, j'arrête mes études et après, il me restera 6 mois pour avoir mon diplôme. Donc, il me restera mon stage à faire de fin d'études.
D'accord. Et donc, du coup, ce stage, peut-être que c'est pour vous donner aussi des idées pour
c'est
après.
Ça. Bah, c'est sûr que là, aujourd'hui, je ne sais pas trop où est-ce que je vais faire mon stage. Et j'espère qu'au bout des 6 mois, j'aurai... Je trouverai un bel endroit pour
faire. T'auras le temps d'y cogiter sur le vélo.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Alors moi, je pense, parce qu'il y a cette idée-là de réinventer ou de retrouver des solutions, en tout cas, à des problèmes qui sont réels. Et donc, le vélo, c'est une mobilité douce. Voilà, on appelle ça. Et donc, je me demandais si les transitions peuvent être douces ou pas. Parce que c'est une question, alors il n'y a peut-être pas une réponse idéale, hein, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un besoin de changement. Et comment vous voyez cette question et comment vous pensez y répondre ?
Alors c'est vrai que mon avis sur la question, il a un petit peu changé cette année, parce que j'ai suivi, on va dire, un semestre particulier qui traitait justement de toutes ces questions-là. Et on a eu beaucoup de cours sur les low-tech aussi, justement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de changement, et on a besoin de changement assez rapide, mine de rien, même si ça ne sert à rien de forcer les gens à changer ou de les faire des changements brutaux. On a besoin de changer rapidement, mais quand même... avec beaucoup d'accompagnement. Donc, brutal peut-être pas, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop long.
Ouais, c'est donc, vous, aujourd'hui, vous avez... est-ce que vous adhérez aussi, parce qu'on a parlé des Tech Labs, mais est-ce qu'il y a du coup, il y a des chartes et des choses auxquelles les gens peuvent aussi adhérer ou se conformer dans leur quotidien ou trouver des solutions à travers, voilà, je sais pas, les messages que vous allez envoyer, ou est-ce qu'ils peuvent vous suivre aussi comme ça
Les gens, ils peuvent nous suivre, ouais. Ils peuvent même nous soutenir s'ils ont envie.
Ça, on va en reparler
du Kengo. Parce qu'il y a la question du financement aussi, c'est ça, ouais. Projet qui est pas rien, j'imagine.
Oui, effectivement, ouais, c'est vrai qu'on a préparé tout ce voyage. Il y a quand même un coût au niveau des vélos, du matériel, et même après, sur place aussi, pour tout ce qui va être les dépenses pour se loger. Parce que je pense que ça nous arrivera quand même d'aller nous loger dans des auberges de jeunesse, par exemple, ou des choses dans le genre. Et même après, pour se nourrir également, on en aura quand même besoin.
Ouais, je pense même, parce que vu les bornes que vous allez faire,
c'est ça,
vous aurez faim.
Ouais, parce que là, tu as touché du doigt tout à l'heure une question que je me posais par rapport aussi à la prise en compte. Là, vous êtes tous les trois, donc vous êtes tous les deux en école d'ingé.
C'est ça.
Et justement, cette question des transitions, comment elle est abordée justement dans vos cursus universitaires ? Est-ce qu'elle est bien prise en main ou pas par vos enseignements ou pas ?
Non. Non, en réalité, on en parle, on va dire, dans nos cursus traditionnels, on en parle peut-être, on va avoir 4 heures de cours sur la finance verte, 4 heures sur le développement durable, mais c'est 4 heures sur 500 heures de cours, voire plus sur une année. Donc c'est très peu. Et souvent, c'est très... on est obligé de le faire, donc on le fait. Donc c'est un peu dommage sur ce côté-là. Et dans les cours normaux, il n'y a pas du tout de prise en compte. Par exemple, moi j'ai eu des cours de métallurgie, on n'a pas parlé du tout de recyclage, ou en tout cas très peu.
L'origine des matériaux, c'est presque secondaire finalement, dans l'enseignement.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'elle est fondamentale. Pardon.
Oui, c'est sûr. Et moi j'ai trouvé ça très dommage. Et cette année, j'ai eu la chance de suivre un semestre où on traitait que de ces choses-là. On a quasiment pas traité de cours d'ingénierie classique. On a traité, en école d'ingénieur, on a traité de sociologie, d'adaptation au changement. Et donc, c'était des choses très nouvelles. Et donc, voilà, j'ai eu de la chance de participer à la première promotion de cette filière et c'était très enrichissant.
Il faut qu'on en parle du Kengo.
Ouais.
Là, vous êtes en... Vous partez le 1er mars, c'est ça ?
On part dimanche, on va jusqu'à Grenoble en voiture et après, on part de là-bas... en vélo. Ce sera plus simple pour nous de passer la montagne rapidement.
C'est ça, c'est le premier pan dans la tronche.
Ouais. C'est ça, exactement.
Et là, donc il y a un crowdfunding, comme on dit, mais une cagnotte Kengo qui est ouverte, et les gens ils peuvent éventuellement participer à votre projet en finançant des hébergements ou une somme qu'ils souhaitent.
C'est ça, les gens ils peuvent donner de l'argent via le crowdfunding et ils peuvent même recevoir des contreparties qu'on a définies. Donc, par exemple, ils peuvent, avec un certain montant, recevoir notre feuille de route très détaillée de ce qu'on va faire et de comment on compte le faire. Ou bien recevoir des cartes postales de chaque pays qu'on va traverser, donc, voilà, qui permet de suivre aussi notre projet au fur et à mesure sans forcément passer par les réseaux sociaux. Donc voilà.
Donc là, vous en êtes où? Là, il vous manque combien?
Là, il nous en manque encore un petit peu. On en est à un peu plus de 2000 et il faudrait qu'on arrive à 5000.
C'est ça. Donc voilà, il faut y aller là.
C'est ça.
Ah bah, c'est le moment. Ouais,
bon, après, vous êtes en plein milieu de campagne de crowdfunding. En général, le début, ça part bien. Au milieu, il y a une petite phase un petit peu molle. Et puis à la fin, ça va repartir.
C'est ça.
Une fois que vous serez parti, c'est bon, ça va.
C'est ça.
Les gens vont venir. Du coup, on rappelle, pour suivre le Vélo Tech Tour, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
Exactement.
Et puis Fred, si tu avais une dernière question, peut-être.
Ben non, je crois qu'on n'a pas. Je vais vous suivre, du coup, avec grand intérêt.
Ça sera avec plaisir.
Ben, merci beaucoup, Tuc Duhal. Et puis, on vous souhaite bon courage à tous les trois.
Ah, merci.
Arrivée prévue à Athènes, c'est pour quand?
Ce sera pour mai, à peu près.
Ça va, vous évitez juin, ça va trop chauffer.
C'est ça, ouais.
Merci beaucoup.
Bon courage, en tout cas.
Merci.
L'EM, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et on continue à parler de sport dans le LEM et plus particulièrement de triathlon. On va parler de trois sports en même temps, c'est chouette ça, avec Aurélien Bata, organisateur du triathlon de Telruc, ou faut dire la Presqu'île Race, si je ne me trompe pas.
Bonjour tout d'abord de m'inviter, hein, parce que du coup, je rappelle, j'étais venu, on s'était par ouais. téléphone, je ne m'étais pas déplacé à ce temps-là.
Oui, il y a quelques temps.
Ouais, ça fait déjà 3 ans, bientôt 3 ans.
C'est ça.
Oui, donc on va parler des triathlons de la Presqu'île de Crozon, alors, qui est passé au pluriel, puisque cette année, on proposera deux épreuves. Un sprint, tout d'abord le samedi 17 septembre, et enfin le half Ironman. Voilà, donc le dimanche.
Donc en gros, une course longue.
Une course courte le samedi,
ouais.
Plutôt courte, voilà, une heure et demie d'épreuve, courte mais intense, et plutôt long et fastidieuse le dimanche.
Ah, ok, et ouais. la course longue du coup se destine à un public quand même voilà, de...
Alors pas forcément, c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire ça, mais ça devient de plus en plus un défi personnel, et les gens viennent de la course à pied, du trail, voilà, se mettent doucement à la natation ou au vélo, et se lance le défi de venir faire une épreuve comme la nôtre. Voilà.
Parce que là, si on parle de la course longue, du coup, on peut avoir un petit aperçu des distances, du dénivelé.
Alors, en natation, tu n'auras pas de dénivelé. Hein,
ouais.
par contre, tu auras deux boucles de 900 mètres en pleine mer. Donc, c'est vrai que ça peut ajouter une petite difficulté par rapport à un lac ou en piscine, hein, c'est clair. L'eau est fraîche sans doute même au mois de septembre, donc 1900 mètres de natation, après on partira sur 3 boucles de 30 km environ de vélo, donc là c'est vrai que il faut que les gens soient conscients de l'exigence du parcours puisqu'on aura à peu près 1200 mètres de dénivelé sur la partie vélo et ensuite on partira pour 3 boucles de 6 km 500 environ sur avec une bonne partie sur le GR34. Donc on peut s'attendre à un trail en fonction de la météo qui a eu les jours précédents. Un peu de boue, du dénivelé un petit peu. Voilà, une course très très dure. Très très dure.
Ouais, et du coup, cette course-là, la grande course, fera office aussi du coup, de championnat de Bretagne.
Oui, alors on a été sollicité par la Ligue il y a quelques semaines là, pour prendre le championnat de Bretagne. Donc voilà, on va s'attendre à du joli public. Hein. On a quelques champions locaux ici. donc Colin Ross hein, que vous aviez reçu.
Qui est un habitué de Radio Évasion.
Par exemple.
Qui a fait la première des évadés du sport.
Tout à fait. Ouais.
On aura sans... peut-être, alors peut-être, je ne sais pas, parce que Arnaud Guillou est un prétendant à la victoire, hein, comme il avait gagné en 2019. Cette année, il sera sans doute dans sa bulle pour le championnat du monde d'Ironman à Hawaï, qui aura lieu sans doute, je crois, début octobre. Donc je pense qu'il sera déjà dans sa bulle et je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par notre épreuve. Voilà.
Et est-ce qu'on verra peut-être aussi Faustine Méret qui avait participé à la Presqu'île Race en 2019?
Alors, Faustine Méret, je n'ai pas de nouvelles de Faustine Méret. Écoutez, elle est la bienvenue sur l'épreuve. Ouais, effectivement, elle avait gagné, elle avait fait deuxième et première dans sa catégorie en juin 2019. Et pourquoi pas?
Parce que là, il y a eu un creux, en fait, parce que là, il y a eu deux années sans édition.
Tout à fait.
Là, il faut remettre le pied à l'étrier aussi, dans l'organisation et surtout dans l'appel aux bénévoles. Du coup, c'est aussi le pourquoi de ta présence.
Oui, alors, moi, c'est vrai que je viens faire la promotion de l'épreuve, parce qu'elle n'a pas eu lieu depuis deux années. Hein, ça a été annulé consécutivement en raison de des contraintes sanitaires. Hein, le Covid, voilà, est passé par là. Effectivement, donc pour les concurrents, parce que j'ai besoin d'eux, hein, j'ai besoin que mon épreuve soit appréciée et j'ai aussi besoin de bénévoles. Donc voilà, on part sur 150 à 200 bénévoles sur le week-end pour diverses fonctions et j'ai réellement besoin d'eux. On peut vraiment pas faire une course sans leur concours. Donc c'est vrai que ça va par la sécurité des participants. C'est vraiment ma priorité en tant qu'organisateur principal de l'événement. Les ravitaillements et les inscriptions et toutes les petites fonctions que vous avez intermédiaires entre les transitions, entre la natation, le vélo, et le vélo, la course à pied. Jusqu'à l'arrivée, on a beaucoup, beaucoup de petites fonctions. Et c'est vrai que sans eux, la course ne peut pas avoir lieu. Quoi.
Non, je pensais, ouais, y a peut-être plein de petits clubs de coureurs à pied ou des gens qui nagent ou qui seraient ravis de venir filer un petit coup de main aussi. On verra peut-être faire un petit partage sur Facebook, quelque chose, que les gens y viennent, quoi.
Et donc, on rappelle les dates pour cet événement qui aura lieu en septembre prochain.
17 et 18 septembre 2022. Donc, les inscriptions sont en ligne sur Click & Go.
Pour les bénévoles ou les sportifs?
Alors, pour les sportifs. Okay. Pour les bénévoles, on sollicite soit directement par mail les bénévoles qui nous ont aidés il y a trois ans bientôt. Ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai que moi, je donne assez facilement mon numéro de téléphone et mon mail. Je suis assez joignable. Et puis après, voilà, nous, on est passé par... on sollicite effectivement les clubs locaux hein, de course à pied, les nageurs de Crozon, voilà, la Comcom, l'office de tourisme de Crozon, etc., qui nous ont aidés à nous transmettre quelques mails, etc. Donc... ça a du mal à décoller, hein.
C'est la
réalité de la chose. Hein. Ça a du mal à décoller, mais bon, je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que voilà, d'ici mai juin, on aura une liste assez conséquente pour pouvoir assurer nos épreuves.
Ouais, donc, puis voilà. C'est un championnat de Bretagne, il y a du spectacle, quoi. C'est
tout
pas,
à fait, ouais, c'est
y
ça.
Il y a moyen d'en prendre plein les yeux aussi, donc ça peut.
Tout ouais. à fait. On a des jolis athlètes là qui vont. Qui vont venir, voilà, c'est vraiment du spectacle, comme vous dites. Voilà, vraiment, voilà, je pense que les bénévoles en prendront plein les yeux ce week-end-là. Ouais.
Donc on fait appel aux hôtels russiens, aux habitants de la Presqu'île, du coup, pour venir...
De tout le monde, j'ai été sollicité, enfin sollicité. J'ai des gens de Quimper et de Brest qui souhaitent venir, voilà.
Ben merci beaucoup Aurélien.
Mais merci à vous.
On se donne rendez-vous merci peut-être un petit peu avant la prochaine édition 2022 pour reparler de tout ça. Quoi. Deux, trois jours avant peut-être. Quoi.
Ça marche. Je vous remercie.